du christianisme, le mot péché, là où bah, toutes les sociétés, toutes les cultures ont connu une variété de termes, la faute, le délit, l'échec, l'erreur, enfin, il y a toutes sortes d'expériences qui traduisent le malaise de l'homme devant un comportement qu'il réprouve. Alors, une des questions qui vont se poser, évidemment, c'est le rapport qu'il y a entre la notion chrétienne de péché et l'expérience immanente que tout le monde fait de quelque chose qui ne va pas dans notre vie, quoi, de s'être trompé, d'avoir mal fait ce qu'on devait faire. Alors, regardons d'abord d'où est venue cette notion de péché, parce qu'encore une fois, elle est spécifique au christianisme dans sa précision, c'est-à-dire quelque chose qui se joue dans le rapport entre l'homme et Dieu. Même si ça porte sur des choses autres, par exemple une faute vis-à-vis du prochain, malgré tout, le propre du péché, c'est d'être une attitude face à Dieu, dont on n'accepte pas la volonté ou la sagesse, mais en tout cas avec lequel on consomme une rupture. Alors, je vais énormément développer le côté biblique. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, on suit à peu près le même schéma, c'est-à-dire de tout un parcours depuis l'écriture jusqu'aux problématiques actuelles. Mais là, cette fois-ci, vous allez voir que la partie biblique va prendre une importance plus grande que d'habitude. Et c'est un peu normal. Selon les sujets, de fait, on a l'impression que tout n'a pas été actualisé en même temps dans la révélation chrétienne, qu'il y a des choses qui sont, je veux dire, dès le début, comme c'est le cas justement du sujet que nous voyons aujourd'hui, ou d'autres qui ont été thématisés plus tard. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas déjà un peu avant, mais la période, en quelque sorte, de prise de conscience et de réflexion et d'approfondissement n'est pas toujours. Il y a des moments, quoi. Par exemple, on voit que les sacrements, c'est une question. Bien sûr, le christianisme a toujours porté, mais ce Moyen-Âge, je ne sais pas pourquoi, c'est le moment où ça devient le sujet. Et donc, si on faisait un cours sur les sacrements, ben, on regarderait effectivement avec plus de détails ce qui s'est dit au Moyen-Âge, même si en soi, c'est un sujet qui concerne le christianisme et même, d'une certaine manière, déjà un peu le judaïsme. Alors, l'Ancien Testament, d'abord le vocabulaire. Il faut souvent commencer par là. Grande variété de termes. Le mot le plus courant, khatat, avec un H assez aspiré, khatat, désigne le fait de manquer le but. Donc au départ, c'est pas forcément un mot religieux. C'est un mot qui peut s'appliquer à d'autres choses. Et alors je vous cite des exemples. La révolte d'un vassal contre son suzerain, la rupture d'un accord, le non-paiement d'une dette, une infraction aux lois de l'hospitalité. Donc en fait, c'est un mot assez large qui désigne le fait d'avoir pas fait ce qu'on devait faire, quoi, d'avoir fait une erreur, de s'être trompé, d'avoir manqué le but. Alors un autre terme, Awan avec Hain, Awan, désigne, on le traduit souvent par iniquité. Hein, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, c'est quelque chose d'intolérable. Et celui qui l'a commis se sent marqué, marqué d'un signe un peu d'infamie, hein, notamment à propos de Cain, Genèse 4, 13, vous le trouvez là. En Jérémie, on a le péché de Judas, Judas, c'est pas Judas Iscariote, évidemment, c'est Judas, la tribu de Judas, est écrit avec un stylet de fer, ça veut dire que ça le marque. Alors, dans la plupart des cas, il s'agit d'un acte volontaire, comme dans le passage que je cite du livre des Nombres, mais il arrive aussi que ce soit une souillure involontaire, mais qui crée quand même un dommage. Donc il va se poser le problème de quelque chose qui s'est passé, qu'on n'est pas fier, mais qui pour autant ne traduit pas forcément une culpabilité personnelle. Ça, c'est des cas assez fréquents dans le Lévitique, où on parle explicitement de manquements ou d'impuretés qui sont commises involontairement. Par exemple, si on a croisé dans la rue un convoi funèbre, eh bien, on a contracté une souillure, et c'est pas un péché au sens chrétien du mot, c'est pas un tort qu'on a commis en tournant le dos au bon Dieu, mais on a quand même contracté quelque chose qui a des conséquences. Bon, on voit aussi le mot de transgression, d'abomination. Et dans le judaïsme tardif, il y a le mot dette qui va marquer beaucoup le Nouveau Testament. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire un topo sur le péché originel en tant que tel, mais enfin, il faut quand même en parler un peu, puisque le deuxième récit de la création comporte une réflexion à ce sujet qui est extrêmement impressionnante. Enfin, le chapitre 2, vous savez, c'est la création de l'homme et de la femme. Et très vite arrive quand même cette transgression qui nous est racontée de façon très impressionnante. Alors, bien sûr, le langage mythique, on le connaît, l'arbre, le fruit et tout ça. Il n'est pas question de pomme, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est qu'en latin, fruit, ça se dit poma. Alors, les gens qui ne savaient pas très bien le latin ont cru que c'était une pomme. Mais il n'y a pas de pomme. Enfin, le mot, en tout cas, ne traduit pas quelle espèce d'arbre il s'agit. Donc, dans les mythes, parce que l'existence du mal, ça posait un problème en tout temps aux hommes. Et donc, on a dans les religions anciennes des mythes qui parlent de l'origine du mal. Mais presque toujours, le mal dérive en fait du monde divin lui-même. Les dieux, par exemple, se chamaillent et ils transmettent en quelque sorte leur brouille et leurs difficultés aux hommes. Et donc, en fait, le mal des hommes a une origine déjà dans le monde divin. Et on pense évidemment à l'Iliade et l'Odyssée où les dieux prennent parti dans des camps différents et se tapent sur la figure. Enfin, donc, tandis que tout à l'inverse, le récit de Genèse 3 nous parle d'un dieu qui lui est carrément au-dessus de tout soupçon. Alors on me dirait, oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous nous dites, parce qu'on parle quand même de. Enfin, on pourrait avoir l'impression, et puis il y a un passage quand même dans la Genèse un peu plus loin, on a l'impression que Dieu dit, bah, si l'homme commence déjà à prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne manquerait plus qu'il prenne le fruit de l'arbre de vie, alors là, il deviendrait éternel, ça serait une catastrophe. Donc, on pourrait penser à première vue que, à travers ça, on a l'image d'un Dieu jaloux, d'un Dieu qui a peur que l'homme conquiert des privilèges, un peu comme Zeus dans le mythe de Prométhée. Et Zeus a volé le feu, il l'a donné aux hommes, et Zeus se venge sur ce pauvre Prométhée de son audace. En réalité, c'est pas du tout ça. La jalousie, elle apparaît dans le, enfin, le soupçon de jalousie apparaît dans le regard que l'homme porte sur Dieu après, dans lequel il croit voir une sorte de volonté de garder pour lui des privilèges. Or, c'est pas du tout ça. L'interdit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas du tout une manière pour Dieu de maintenir l'homme en situation inférieure. D'abord, il semble bien que c'est un interdit provisoire, en lui disant, pour l'instant, tu n'es pas en mesure d'en profiter, mais ce n'est pas de lui interdire forcément pour toujours. Et puis, deuxièmement, le fait qu'il y ait un interdit, nous, nous le vivons toujours mal. Nous avons l'impression que si on nous interdit quelque chose, c'est que ça doit être bon et que quelqu'un de méchant nous l'interdit. Mais c'est tout simplement le signe que entre Dieu et l'homme, il y a une différence de point de vue, une différence nette, et il y a une demande de confiance. Dieu propose cet interdit, qui est d'ailleurs très limité, puisqu'il peut manger tous les fruits de tous les arbres, mais il y en a un. Donc, dans un régime de confiance de filiale, dans un régime de connivence mutuelle, ça ne pose pas de problème. Ça n'en pose un qu'à partir du moment où on est déjà en dehors de la relation et qu'on la juge de l'extérieur, disant pourquoi on m'interdit ça, c'est pas normal, etc. C'est ça que le serpent essaie de glisser dans le cœur de l'homme et de la femme. Mais alors, justement, si Dieu est si innocent du mal que ça, comment se fait-il qu'il y ait du mal? C'est au fond ça la question que nous nous posons et que d'une certaine manière se pose la Genèse. Car on remarque que justement, il ne s'agit pas d'expliquer le mal. Le mal est toujours l'absurde. S'il surgit, il n'y a pas de condition préalable. Il y a bien sûr le serpent qui est dans le jardin, mais après tout, il n'avait aucune influence. Si l'homme et la femme lui avaient dit non, il n'aurait joué aucun rôle. Donc, en réalité, notre manière de penser par laquelle on remonte toujours sur les causes en disant c'est de la faute de ce qui précède, eh bien, est faux. Le mal surgit d'une réponse, d'un acte de volonté humaine qui n'est pas bon, mais qui n'est pas expliqué par la création de l'homme. Il n'y a pas dans la création de l'homme et de la femme ce qui serait le préalable du mal. On me dit, si, il y a la liberté. Mais d'accord, mais cette liberté, elle a une autre destination. Elle est au contraire ce qui va permettre une réponse libre de l'homme à Dieu. Donc en soi, elle n'est pas un cadeau empoisonné. Elle n'est pas destinée à mal tourner. Donc, il faut que nous arrivions à penser, et c'est la Genèse qui nous y porte, l'idée d'un mal qui surgit d'une création bonne. Il n'y a pas, en quelque sorte, déjà de l'eau dans le gaz avant. Il n'y a pas un antécédent du mal qui serait dans la création elle-même.
Surgit d'où le mal alors ?
Mais justement, voyez, si nous posons la question, et d'où surgit l'amour ? Voyez, il faut toujours se demander, est-ce qu'on peut dire quelqu'un m'aime parce que je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, je suis le plus... Non, le propre de l'amour, c'est que l'amour n'a pas de cause d'une certaine manière. Parce que si on en trouvait une... L'amour ne serait plus l'amour. Et le mal, si on lui trouvait une cause antécédente, ne serait plus le mal. Donc, il serait simplement un développement d'un processus qui aurait son origine avant, et il ne serait pas cette absurdité qu'est le mal. Le propre du mal, c'est d'être ce surgissement inouï de quelque chose qui n'était pas dans la création. Alors, c'est pas une explication que je vous donne là, c'est le fait de dire la Genèse nous place devant quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas dans la création et qui malgré tout va surgir par une réponse mauvaise de l'homme et de la femme. Bon, alors la question de la présence du serpent s'éclaircit un peu plus par d'autres textes de la Bible qui nous parlent du péché des anges comme premier détournement, en quelque sorte, de la volonté de Dieu. Mais le péché d'Adam et Ève ne s'explique donc ni, à proprement parler, par la suggestion diabolique, qui n'a d'influence que parce que, justement, elle est écoutée, cette suggestion, ni par la faiblesse naturelle de l'homme. Elle est l'inexplicable orientation d'une volonté libre. Parce que faire partir le mal de l'insuffisance de l'homme, encore une fois, ça serait remettre à Dieu la responsabilité dans ce cas-là. Et c'est comme si le fait d'être créé était déjà une tare, en quelque sorte. Que de ne pas être Dieu serait déjà un manque à gagner, en quelque sorte. Et ça... C'est faux, c'est archi-faux, parce que justement, la création est bonne, la création n'est pas... De ne pas être Dieu, mais d'être créé par Dieu, c'est une situation que Dieu a voulu et qui est heureuse, et qui... C'est comme un enfant qui est encore enfant, mais qui est destiné à grandir, à s'épanouir, à prendre ses dimensions. Donc l'homme est créé sans doute petit enfant, en quelque sorte. Enfin, il lui manque encore beaucoup de choses, mais... Il est destiné à connaître le bonheur dans une relation heureuse avec Dieu. Donc la création n'est pas connotée de mal. Vous savez, on a énormément de mal à penser ça. Mais je vais vous en donner un exemple, je fais un peu une parenthèse, mais vous avez sans doute entendu parler de Leibniz, ce philosophe fin 17e, début 18e, qui a écrit d'ailleurs de fort bonnes choses par ailleurs, mais qui a écrit une théodicée pour justifier Dieu du mal. Et donc... Et alors il commence tout de suite, et malheureusement tout est mal engagé par ça, à nous dire, au fond, il y a trois sortes de maux. Il y a le mal physique, souffrance, le mal moral, péché, mais il y a le mal métaphysique. Alors, qu'est-ce que c'est que le mal métaphysique? C'est le fait que y a inégalité entre Dieu et l'homme. Donc ça, si c'est du mal, c'est Dieu qui en est la cause, forcément. Et c'est insupportable. Alors, pensez la différence. Enfin, c'est comme si un petit enfant reprochait à ses parents d'être un petit enfant, quoi. Bien sûr, il n'a pas la taille de ses parents, mais ça ne lui enlève rien. Comme enfant, il est très réussi, il est très beau, il est ce qu'il doit être. Il grandira, mais en tout cas, il est déjà pleinement réussi comme enfant. Eh bien, la créature humaine était pleinement réussie par Dieu. Il n'y a pas de mal métaphysique. C'est cette idée qu'il y aurait quelque chose comme une espèce d'infériorité dont on serait malheureux et dans lequel Dieu nous aurait mis en situation subalterne par la création. Je crois que, au fond, c'est la racine cachée de beaucoup de choses. Et quand je sais pas, Sartre ou d'autres crient leur athéisme, au fond, ça vient un peu de là, quoi. Ça vient de cette idée de pourquoi Dieu m'a voulu de moi en me mettant dans une position qui est une position basse. Or, c'est pas du tout la vision que nous donne le livre de la Genèse. La création est totalement exempte de mal. Elle est bonne, c'est un cadeau merveilleux que Dieu fait à l'homme de son existence. Dans l'ordre qui est le sien et dans lequel il est destiné à s'épanouir et à connaître le bonheur. Bon.
Excuse-moi, l'inclination au mal, alors.
Pardon ?
L'inclination au mal.
Attendez, si vous voulez, je vous laisserai la parole tout à l'heure, mais je voudrais essayer d'avancer un peu parce que j'ai peur qu'on n'arrive jamais au bout si on s'interrompt trop en cours de route. Alors, ça, c'est le fond de tableau. Mais il y a une sorte de scénario dramatique dans lequel on nous montre le cheminement de la tentation. Et donc, il y a le commandement divin. Et puis ensuite, il y a tout un engrenage de... Enfin, je m'en prends engrenage, le mot peut-être trop fort. Une succession, en tout cas, d'étapes qui n'ont l'air de rien, mais qui tout aggravent quand même le commencement. On a remarqué depuis longtemps que quand Satan s'adresse à Ève, bon, elle est seule à porter le commandement, alors que Dieu l'a donné à Adam. Alors, visiblement, Adam en a parlé à Ève, mais elle est toute seule pour faire face à ça. Cette solitude d'Ève devant le serpent, c'est déjà... On se demande ce qui se passe, quoi. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Elle-même redit le commandement, mais pas exactement comme il a été proféré. Ensuite, évidemment, il y a le soupçon qu'essaie d'introduire le serpent en disant « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas, etc. » Ensuite, la convoitise, elle regarde le fruit, elle trouve qu'il est il doit être savoureux, elle le partage avec son mari. Et puis encore, la fuite, finalement, devant Dieu, Adam qui fuit la rencontre avec Dieu, alors que Dieu vient à l'heure du soir, enfin, elle vient familièrement dans le jardin. Et peut-être que tout aurait pu se résoudre par une franche explication, mais l'homme fuit. La fuit et ensuite on tombe dans l'accusation mutuelle. Donc les choses s'aggravent progressivement alors qu'on a l'impression que tout pourrait s'arrêter facilement. Enfin, il n'y a pas de nécessité. Tous ces événements successifs sont autant de... Pourtant, ils aggravent les choses jusqu'à la fois la fuite et l'accusation mutuelle par lesquelles, au fond, l'homme... Adam, en l'occurrence, refuse sa responsabilité et refile la patate chaude à Ève, qui elle-même la refile au serpent. Et puis tous les deux, finalement, accusent Dieu, puisque Adam dit la femme que tu m'as donnée, ce qui est quand même culotté. Alors, il était bien content de la trouver. Maintenant, il accuse Dieu de l'avoir mis sur son chemin une tentatrice. Enfin, on voit comment le mal, finalement, il y a une espèce de course à l'abîme, dans lequel les choses vont en s'aggravant. Jusqu'à ce qui est provisoirement irrévocable, mais qui n'est pas vraiment irrévocable, puisque justement, le mal de l'homme, à l'inverse de celui des anges, est réversible. Il n'est jamais frontal avant la damnation, mais il n'est jamais vraiment définitif. Et c'est ce qui ouvre une porte sur l'avenir qui nous est donnée dans la Genèse elle-même, puisqu'on annonce que dans la descendance de la femme se lèvera celui qui écrasera le serpent, etc. Donc il y a provisoirement un irrévocable, puisque l'Éden est fermé, mais avec la perspective que ça puisse quand même changer et que une rédemption arrive. Donc ce texte, malgré tout, est extraordinairement fort. Il n'explique pas tout, bien sûr, mais il nous donne des aperçus sur le mal qui sont remarquables. Alors ensuite, quand on lit le livre de la Genèse, d'autres comportements coupables s'enchaînent. Évidemment, le meurtre d'Abel par Caïn, inspiré apparemment par la jalousie et par le dépit. Alors ensuite, Dieu semble se repentir d'avoir créé l'homme, il y a le déluge, mais en fait, l'histoire rebondit avec Noé, et dans la descendance de Noé, ça continue encore. Et le principal épisode, c'est celui de la tour de Babel, qui traduit la volonté de l'homme de se construire un paradis, enfin, ou quelque chose, en tout cas, de l'assurer, dans lequel il se met à l'abri de Dieu, en quelque sorte. Il construit une réalité humaine qui est son œuvre à lui, et dans laquelle Dieu n'a rien à voir. Et Dieu brouille les langues des hommes pour que cet enfermement n'ait pas lieu. Mais c'est pas une, ça ne guérit pas le cœur de l'homme, malheureusement, et ça continue. Alors, on a remarqué depuis longtemps que tous les personnages de la Bible sont tous pécheurs. Abraham, c'est assez frappant, à peine nous a-t-on raconté la merveilleuse scène, Abraham entend l'appel de Dieu, il se met en route, ça va tout seul, il arrive en Canaan, il s'installe, tout est bien, il passe en Égypte et là, le père des croyants fait quelque chose qui est vraiment pas très joli, fait passer sa femme pour sa sœur parce qu'il a remarqué que Pharaon avait un petit faible pour Sarah. Donc il laisse sa femme à Pharaon en faisant croire. Et c'est Pharaon qui, quand il l'apprend, dit, mais enfin pourquoi tu m'as fait ça? Moi tu m'aurais dit que c'était ta femme, j'aurais respecté. Enfin qu'est-ce qui se passe? Etc. C'est le Pharaon qui est meilleure moralité qu'Abraham, que le père des croyants, c'est quand même impressionnant. Bon, Jacob qui ment à tour de bras, qui roule son beau-père, Moïse qui déplaît à Dieu, alors c'est un peu plus mystérieux. La faute de Moïse est pas très. Enfin, ça semble une espèce d'un demi-incrédulité au moment de faire le miracle de frapper le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Samson, David, etc. Enfin, la liste est longue. Alors, le lieu où sans doute Israël va le plus clairement réfléchir sur le péché, c'est le culte. Parce que c'est normal, là où est la sainteté de Dieu, là aussi se révèle le péché. Là où est le plus fort de la relation avec Dieu, là aussi apparaît l'inverse aussi. Donc, le culte est le cadre où Israël fait une expérience de la sainteté divine. Alors, cette expérience, évidemment, elle nous surprend parce que c'est les fameuses règles de pureté. Alors, on se dit, oui, c'est bien extérieur, c'est bien superficiel, il faut pas mélanger le lin et le chanvre, il faut pas faire la cuisine en mêlant le lait et la viande, enfin, etc. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Car il faut bien comprendre que, en fait, au fond, Dieu procède un peu comme on procède avec un enfant. On commence par lui apprendre qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Enfin, qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, qu'il faut se laver les mains avant de se mettre à table. On lui apprend un tas de choses. L'éducation de la propreté pour un enfant, c'est quand même Ça commence par là, par une séparation. Il y a des choses. Ben non, ou alors c'est dans les toilettes, mais enfin, c'est pas devant tout le monde, ou c'est pas. Et puis on se lave les mains après. Enfin, cette expérience d'une séparation entre le comportement social et puis un certain nombre d'activités, c'est comme ça aussi que nous avons été éduqués. C'est comme ça que nous avons commencé à avoir une première expérience. Il y avait des choses qui valaient, des choses qui ne valaient pas, du moins qu'on ne pouvait pas faire dans certains contextes et qu'on pouvait par contre faire dans d'autres. Donc l'expérience de la pureté, c'est la manière de séparer les choses. C'est pour ça qu'il y a des animaux purs, des animaux impurs, il y a des choses qui se font dans un certain cadre et d'autres qui ne se font pas dans un certain autre cadre. C'est une éducation. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup éclairé, d'une anglaise, sur les abominations du Lévitique, où elle expliquait des choses aussi. Par exemple, pourquoi certains animaux sont jugés impurs. Et c'est, en fait, elle aboutit à la conclusion que c'est parce qu'ils sont inclassables. Il y a les quadrupèdes, parmi les quadrupèdes, il y a ceux qui ont les sabots fendus, et le porc, il est entre deux catégories, il n'entre pas clairement dans une catégorie. C'est un peu comme l'expérience souvent des enfants, c'est que il y a le liquide et le solide, mais ce qui est entre les deux, la chose un peu gélatineuse, ils trouvent que c'est sale. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais moi je sais que quand j'étais petit, effectivement, je ne ferais pas manger une gélatine, un truc comme ça. Je trouvais que c'était vraiment pas bien, quoi. Eh bien, c'est inclassable. Alors on me dirait, mais quel rapport avec le péché, tout ça? Eh bien, l'expérience du péché va naître progressivement de cette expérience de séparation. C'est-à-dire, Dieu est Dieu, il nous invite, et donc on n'arrive pas comme on est, quoi. On s'essuie les pieds avant d'entrer, on n'est pas de plein pied avec le divin. Notre activité, même notre activité matérielle, la cuisine, l'habillement, toutes ces choses-là, ben voilà, il faut qu'on apprenne à faire des distinctions, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont avec le culte et des choses qui ne vont pas avec le culte. Alors que dans les religions païennes, c'était, comme on dit, l'holisme, c'est-à-dire une espèce de joyeux mélange dans lequel la grande bouffe, la sexualité débridée, tout ça, ça prenait sa place même dans le culte. Tandis qu'Israël va avoir toute une ascèse, on peut dire, par lequel va provoquer cette espèce de mise à part et qui a pour effet marqué d'impureté un certain nombre de choses qui pourtant sont nécessaires à la vie, qui ne sont pas forcément, mais qui n'ont pas leur place dans le contexte culturel et qu'il faut écarter. L'idée finalement, c'est celle de l'unicité de Dieu. C'est parce que il faut rendre témoignage au Dieu unique qui n'est pas confondu avec les forces de la nature, qu'on va mettre toutes ces séparations et qu'on va considérer qu'il y a des choses qui ne se font pas dans la maison de Dieu ou même dans le peuple d'Israël qui est tout entier une nation sainte. Alors, l'impureté qui peut être involontaire, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, pas tout à fait comme la faute morale. Le Lévitique distingue quand même les sacrifices pour le péché et les sacrifices de réparation. Donc ça prouve quand même que déjà la distinction entre le volontaire et l'involontaire fait son chemin, mais elle n'est certainement pas totale. Alors, dans les psaumes, on a un affinement de la conscience du péché, quelque chose d'impressionnant. Le meilleur exemple, c'est évidemment l'extraordinaire psaume 51 ou 50, Miserere, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. On voit que le psalmiste, alors qu'il est peut-être David après sa faute, en prenant conscience de son péché, d'abord, il a conscience que c'est devant Dieu seul qu'est le péché. même si objectivement le péché peut mettre en cause d'autres personnes, et puis nous-mêmes, eh bien malgré tout, le péché est avant tout par rapport à Dieu. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Conscience que le psalmiste qui comprend, qui sait que Dieu l'a créé avec amour et lui donne une place et une mission et un service à remplir de sa vie, eh bien, mesure que c'est contre ça qu'il a péché. Son péché, quelle qu'en était l'occasion, il est contre Dieu. Également, il ne cherche pas à s'excuser, et encore moins à accuser les autres. Donc il n'y a rien comme une accusation, rien comme une manière de reporter, comme l'avait fait Adam, la culpabilité sur d'autres. Cette espèce de course folle par laquelle c'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents, c'est pas la faute de l'école, c'est la faute de la société, c'est la faute de je sais pas quoi. Hein. Alors bien sûr, vous me direz, malgré tout, dans le péché, ma mère m'a conçu, il y a ça dans le psaume 50, mais c'est juste pour rappeler à Dieu, enfin, qu'il appartient à une humanité qui est blessée, qui porte en elle-même une faiblesse congénitale. C'est pas vraiment une excuse, c'est une manière de rappeler, de se dire à lui-même devant Dieu, tu vois, je suis pauvrette, quoi. J'appartiens à une humanité qui n'est pas dans son état normal, quoi, en quelque sorte. Et d'avance, il reçoit le jugement de Dieu comme juste. Vous voyez, on va juste à l'inverse de l'attitude du pécheur, qui va toujours trouver que c'est de s'innocenter, de dire que et de se révolter contre l'éventuel châtiment qu'on lui imposerait. Tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Il y a une manière de se remettre complètement au jugement de Dieu, d'accepter tout de lui. Qui désarme évidemment le Dieu, parce que quand on voit l'homme qui se met vraiment complètement entre ses mains en disant tu fais de moi ce que tu veux, eh bien c'est le moment où il devient possible de se réconcilier. Alors on a un écho de cela dans un texte que je vous recommande de lire, hein, je ne vous le cite pas là, mais qui est dans le Daniel, mais dans les additions grecques du livre de Daniel. Le livre de Daniel est un livre curieux et il y a des parties qui sont conservées dans la traduction de la Septante, comme on dit, et qui ne sont pas dans le texte hébraïque. Donc les Juifs qui ne suivent pas la Septante, les Juifs, oui, qui ne suivent pas la Septante, nous non pas, les protestants non plus, par le fait même, mais dans nos Bibles, nous l'avons in extenso, et c'est le cantique des... Enfin, c'est dans la scène des trois enfants dans la fournaise. Il y a un texte assez magnifique où Azarias dit, ben voilà, nous, ce qui nous est arrivé, ben oui, c'était juste. Dieu a eu beaucoup de patience avec nous et c'est notre faute, c'est notre impiété, c'est notre refus de suivre la loi, c'est notre... Et il va même jusqu'à dire, nous n'avons pas accompli ce qui nous était commandé pour notre bien. Donc la loi n'est pas suspectée d'être mauvaise. Pas comme dans le jardin, on soupçonnerait Dieu d'avoir fait une loi qui est oppressive. Donc tu nous as donné pour notre bien. Donc voilà, l'attitude de l'homme qui s'en remet complètement à Dieu, qui sait que sa faute est grave, qui ne cherche pas à se faire le malin et à se justifier ou à accuser, et qui s'en remet au jugement de Dieu. Alors la dernière petite touche qui est très importante, c'est les livres de sagesse. Vous savez, on a parlé de ça la fois dernière, beaucoup de ces textes assez extraordinaires. Et ce que les livres de sagesse apportent, c'est cette réflexion que le péché, au fond, il est une folie avant toute chose. Qu'il est une attitude irrationnelle, finalement. Que le pécheur, c'est un peu fou, quoi, de faire ce qu'il fait. Et Notamment, il ne voit pas ce pécheur que le péché, en péchant, en fait, il se nuit à lui-même. Alors, c'est là qu'apparaît l'idée d'une sorte de châtiment immanent. Comme dit le proverbe français, sème le vent, récolte la tempête. Enfin, il y a le péché porte en lui son châtiment. Si je bois outre mesure, ben, je vais avoir toutes sortes de. Je vais tomber malade, je vais attraper. Je vais attraper des tas de choses. Donc le péché est vu comme, non pas puni par Dieu, mais puni par lui-même en quelque sorte. C'est une folie, c'est une attitude déraisonnable de l'homme qui, sous l'effet de la passion, eh bien, perd le sens de son véritable intérêt. Alors le lien entre le péché et le malheur des hommes, c'est, vous savez, tout un sujet important dans la Bible. Cela évidemment amène des positions variées, notamment le livre de Job, où justement le sujet c'est ça, c'est comment se fait-il que quelqu'un de juste apparemment connaisse de tels malheurs. Donc on a l'impression que là, pour le coup, il n'y a pas de lien entre le péché et la souffrance. Et, mais même à la fin de Job, enfin, Job finit quand même par demander pardon, et on voit que, en tout cas dans l'Écriture, on n'écartera jamais complètement l'idée qu'il y a un lien entre la faute et la souffrance, même si on est obligé de nuancer ça dans le cas de certains justes qui semblent ne pas avoir commis de faute, ou au moins pas beaucoup, et qui sont affreusement touchés. C'est le cas du roi Josias. Le problème du juste souffrance est beaucoup posé à l'occasion de Josias, qui était le meilleur roi que Jérusalem ait connu, et qui est mort brutalement dans un combat, et provoquant le malheur de son peuple. Donc on s'est demandé ce qui se passait. Alors, le Nouveau Testament, essayons d'avancer parce que je ne voudrais pas vous faire être au milieu de mon cours quand l'heure sonnera. Alors, le vocabulaire, finalement, est assez proche de l'hébreu parce que le mot le plus couramment utilisé a un peu la même racine, manquer le but, amartia, amartanein, ça veut dire manquer le but en grec. Mais il y a aussi anomia, l'absence de loi, de nomos, paraptoma, qui veut dire chute, ophélema, dette. Alors ça sert pas mal, notamment dans Notre Père. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui ont des dettes. Alors, dans la langue de Jésus, on a vraiment l'impression que le cas le plus grave du péché qu'il relève, c'est l'incrédulité. Le fait pour l'homme de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas être dans l'abandon à sa volonté, quand il dit « quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Il semble que finalement, il résume par là le péché de l'humanité. Alors, le mot de dette, je vous ai dit, est souvent employé par Jésus, qui a recours assez facilement à des images financières. Le débiteur insolvable, l'intendant infidèle, enfin vous savez, le dépôt, les talents, enfin il y a souvent des images qui sont prises à problème de l'argent, quoi, et de la transmission de l'argent. Et donc Jésus voit souvent le péché à travers la situation de l'homme qui est en dette vis-à-vis de Dieu. Dieu lui doit quelque chose à Dieu parce que sa créature doit rendre à Dieu tout hommage et toute gloire et lui obéir, et l'homme ne le fait pas. Donc il se met dans un mauvais cas vis-à-vis de Dieu, qui peut s'appeler une dette. Et évidemment, il le compare à des choses entre nous. Si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et il me le doit, et si je ne lui rends pas, ben je suis en tort vis-à-vis de lui. Alors, ce qui est très important et qui est une inflexion assez sensible, c'est la distinction beaucoup plus nette que Jésus introduit entre le péché et la souffrance. Avec cette fameuse phrase, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui pénétrant en lui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Donc là, l'idée que le péché est dans la volonté, puisque sortir de l'homme, c'est-à-dire sortir de son cœur, venir de lui. Par contre, ce qu'il reçoit de l'extérieur comme miasme, c'est il en souffre, mais c'est pas de sa faute. Alors, on dit souvent Jésus s'éloigne de l'Ancien Testament aussi dans le fait qu'il ne met aucun lien entre le péché et la souffrance. Alors ça, c'est pas vrai. D'abord parce qu'il y a le texte que je vous cite de Jean 5, 14, c'est quand le paralytique est guéri, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit: ne pêche pas, il pourrait arriver pire encore. Donc Jésus n'en exclut pas qu'il y ait un lien entre le péché et la souffrance. Mais c'est vrai que devant l'aveugle-né, ou dans un autre cas que je vous cite ici, il a l'air de dire, ben non, il n'est pas ceux qui ont été massacrés par Pilate, ils n'étaient pas de plus grands pécheurs que d'autres. Mais c'est que il introduit un autre aspect du problème, qui est le fait qu'il y a une espèce d'engrenage qui remonte beaucoup plus loin que le manquement que vous, moi, nous pouvons faire, quelque chose qui revient de plus loin et qui fait que l'homme peut se trouver porté par un mal qui est plus ancien que lui et dans lequel et la seule issue, comme il dit, c'est de se convertir. On ne va pas faire les comptes parce que c'est l'ensemble des péchés qui est d'une certaine manière responsable de l'ensemble des souffrances, mais ça ne se partage pas par individu. C'est ce que semble dire Jésus. Alors, saint Paul a une extraordinaire, enfin, le mot péché dans saint Paul, c'est un mot qui revient extrêmement souvent, mais qui a finalement un sens assez large. Parce que, à côté du sens propre, on peut dire, du mot péché, c'est-à-dire faute personnelle commise contre la bonté et la justice de Dieu, on voit un sens qui semble plus large, qui désigne une situation. C'est en ce sens qui peut avoir cette phrase presque incompréhensible qui choque souvent. Dieu, enfin Jésus qui n'avait pas commis le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Donc il dit bien, il n'a pas connu le péché, donc Jésus n'a aucune faute personnelle, et pourtant le Père l'a fait pécher pour nous pour que nous soyons justice. Il y a une sorte d'échange, lui qui est complètement juste, il nous passe sa justice et il prend notre péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre notre péché? Puisqu'il ne pèche pas. C'est prendre le déshonneur du péché, c'est prendre l'état nauséabond qui est celui du pécheur. Alors il y a aussi un autre texte très difficile que je ne vais pas vous expliquer ici parce que c'est Romains 8, 3, 4, mais si vous avez le temps, allez regarder. C'est un texte pourtant très important, très beau, mais dans lequel saint Paul utilise là aussi le mot péché. Alors il parle même d'une chair de péché. Et chair, vous savez bien, ce n'est pas seulement le corps, c'est toute la fragilité de l'homme qu'il a comme conséquence du péché. Enfin, on a l'impression qu'entre péché et conséquence du péché, saint Paul ne fait pas toujours la différence. Alors pourtant, dans d'autres textes, il a fait quand même. Puisque on voit apparaître souvent le mot mort pour désigner les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Célèbre formule de Romains 6, 23. Alors, bon, je vous déballe un peu tout ça, et ça manque un peu d'unité, mais il faut se rendre compte que c'est la réalité, en tout cas que vit saint Paul, est souvent plus large que la faute morale, spirituelle, commise par une personne à un moment donné. Et par moments, le péché apparaît aussi comme une sorte de force, presque douée de personnalité. Il entre dans le monde. Avec le péché d'Adam, il habite dans l'homme. Et alors ce fameux texte que vous connaissez bien, où saint Paul dit je voudrais faire le bien, c'est pas ce que je fais, je voudrais éviter le mal et je tombe dedans. Il conclut en disant: j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché. Alors une loi qui enchaîne à une autre loi, à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il a l'impression d'une espèce de logique infernale dans lequel le péché s'autogénère en quelque sorte. Alors, je crois que toutes ces formules, il faut que nous les gardions parce qu'elles vont nous aider à comprendre tout à l'heure que le péché, il est à la fois dans l'acte qu'on commet, l'acte mauvais qu'on connaît, mais qu'il est aussi tout un état qui vient généralement de ce péché, mais qui ensuite dure et paralyse en quelque sorte l'homme dans son chemin vers Dieu. D'où la nécessité d'en sortir à n'importe quel prix. Bon, je passe rapidement sur Saint Jean, où il n'y a pas finalement énormément sur notre sujet. Alors, les pères de l'Église, là, je vais passer encore plus vite. Le seul qui vraiment apporte, à mon avis, sur la notion de péché un éclairage fort, c'est Saint Augustin, qui, avec une finesse d'analyse, d'abord, quand il parle de sa propre expérience de converti, il nous raconte comment il était enchaîné au plaisir de la chair, ça, c'est clair, et comment le péché engendre une habitude, comment il engendre une délectation, la délectation, on s'y habitue, et puis c'est, une fois qu'on est habitué, ça devient une nécessité. Et on ne peut plus en sortir, on en sort très difficilement. C'est là qu'il a ce fameux texte, il dit « Je commande à ma main, c'est ce que je veux, je commande à ma volonté, elle ne m'obéit pas. » C'est un monde ça quand même. Comment se fait-il que ma volonté ne m'obéisse pas? Mon corps m'obéit plus que mon âme. Mais, alors, à propos du péché d'Adam aussi, il y a tout un effort pour voir comment, à son avis, tout découle de la superbia. Ce qu'il appelle superbia, c'est orgueil, c'est l'amour désordonné de soi. Parce que là aussi, il veut essayer de nous montrer qu'il n'y a pas une condition antérieure. Parce qu'en soi, l'amour de soi n'est pas une mauvaise chose. C'est normal que nous nous aimions, puisque Dieu nous aime. Nous a donné des bonnes choses, et c'est reconnaître, c'est donc nous aimer. Mais il y a un amour désordonné qui va se glisser là-dedans, qui va être une espèce de complaisance en soi-même, qui va engendrer alors tous les malheurs qui suivent, hypocrisie, mensonge, excuse, envie, désobéissance. Bon, je passe rapidement. J'en arrive aux réflexions finales, parce que sinon, vous ne les aurez pas. Donc, première chose, pour qu'il y ait péché, il y a la relation, enfin le péché blesse la relation entre l'homme et Dieu. Pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait un acte, ça nous y reviendrons, mais qui finalement est situé dans une relation avec Dieu. Donc, tout ce qui n'est pas de cet ordre n'est pas exactement le péché. Notamment, il n'y a pas de péché involontaire. Même le péché par omission, il faut bien réfléchir à deux fois sur ce que ça peut vouloir dire. Si c'est une véritable omission, ce n'est pas un péché. Bien sûr, il y a des omissions dont je peux être coupable. Si j'ai mis quelqu'un dans la cave et que j'oublie de le nourrir, je serai plus coupable d'homicide quand même. Enfin, parce que j'ai pas. Mais c'est pas l'omission par elle-même qui, si c'est vraiment une omission, c'est pas un péché. Donc il y a beaucoup de choses qui conduisent au péché, mais qui ne sont pas le péché lui-même. Je crois que c'est assez clair que ni la faiblesse de la volonté, ni les mauvaises habitudes ne sont en soi des péchés. Ils ne le deviennent que parce qu'il y a une attitude spirituelle de l'homme qui dit « non, je ne ferai pas ça » ou au contraire « ça, je vais le faire » en se séparant de la volonté de Dieu. Donc souvent, cette perception est brouillée. Nous n'avons pas le sentiment que l'impression que toutes ces choses, c'est presque déjà le péché. Il y a des gens qui, en confession, s'accusent, je sais pas, d'avoir eu de mauvaises pensées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, de mauvaises pensées? Ces pensées qu'on a courtisées, qu'on a On a accepté ou est-ce que c'est simplement une suggestion qui s'est imposée à l'esprit et dans laquelle on était? Donc, vous voyez, c'est souvent un peu difficile, mais c'est très salutaire de repérer justement que toutes ces choses qui sont antérieures au péché ne sont pas encore le péché lui-même. Et il y a une voie de libération aussi qui passe par là, d'arriver à apercevoir que nous ne sommes pas coupables ni de la tentation en tant que telle, ni de tout ce qui peut se présenter à nous antérieurement à la décision. Alors on a un bel exemple de ça dans le cas de Caïn, auquel Dieu dit, alors je sais bien que il y a des problèmes de traduction, vous ne trouverez pas partout les mêmes traductions, mais si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Caïn qui est déjà mal parti, quoi, il a vraiment envie d'en découdre avec son frère. Mais si tu es bien disposé, le péché n'est-il Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte, une bête tapie qui te convoite, mais tu peux, toi, la dominer. Il n'y a pas de point d'interrogation. De toute façon, en hébreu, il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, c'est là que. Donc, on a vraiment l'impression que Dieu dit à Caïn, tant que tu veux pas le faire, eh bien, peut-être qu'il y a de mauvais instincts qui croupissent en toi, qui grenouillent en toi, mais ce n'est pas encore le péché. Le péché, il est dans un acte, dans une attitude objective face à Dieu. Alors, donc le péché, c'est un acte, et un acte concret qui met en jeu un comportement objectif. Ce n'est pas seulement. Une intention, c'est un commencement de réalisation, c'est-à-dire par lequel l'homme se sépare de quelque chose que Dieu lui demande ou fait quelque chose que Dieu lui demande d'éviter. Et là, il y a quelque chose d'objectif, plus ou moins grave d'ailleurs, hein, tous les péchés ne sont pas mortels, comme dit saint Jean, mais il y a un acte objectif. Qui est conjoint. Donc dans le péché, il y a en quelque sorte deux faces. Il y a un côté spirituel, si on peut dire, qui est dire non à Dieu, et d'autre part, ça porte toujours sur quelque chose de concret, d'objectif. Alors, le péché comme acte entraîne aussitôt un état. Et ça, c'est une expérience malheureusement que nous faisons. C'est que, au-delà du péché lui-même, il y a souvent une espèce de. Enfin, il y a des conséquences, et dont la première est le malaise, la tristesse, le sentiment d'impuissance. Le péché engendre une sorte d'affaiblissement des réactions. C'est pour ça qu'il est si difficile de le démentir tout de suite. Pourtant. On n'est pas fier généralement, enfin, mais on n'arrive pas à prendre le dessus. Il y a comme une espèce d'abaissement de la conscience qui fait qu'on se sent plus capable de se séparer. Et souvent, la répétition du péché devient comme une fuite en avant. Comme une manière de justement plus se poser de questions, se dire ben, puisque j'y suis vraiment, j'y reste, je patauge dedans et je vais jusqu'au bout. En tout cas, le péché va souvent jusqu'à un aveuglement, comme on le voit dans le cas de David avec sa faute quand même assez énorme, quoi, de non seulement l'adultère, mais le meurtre d'Uri le Hittite, eh bien, il semble qu'il. L'aveuglement fait que quand on lui raconte l'histoire, vous savez, Nathan commence par lui raconter une petite histoire, il voit absolument pas que c'est lui qu'on parle, quoi. C'est quand même impressionnant. Il faut que Nathan lui dise, cet homme, c'est toi. Donc, j'insiste sur cet état de péché parce que c'est là qu'est la difficulté. S'il n'y avait qu'un comportement mauvais qu'on fait une fois, puis qu'on dément après, à la limite, il n'y aurait pas d'obstacle entre Dieu et l'homme. Mais comme on le voit déjà avec Adam, il y a comme une espèce d'affaiblissement consécutif qui fait que le relèvement devient de plus en plus difficile. Et c'est probablement là qu'intervient le Christ, justement, puisque il va prendre de l'homme toutes ses longueurs, toutes ses lourdeurs, toutes ses incapacités pour, même au milieu d'elles, arriver à prendre la position de l'homme religieux devant Dieu. Enfin, ce qu'on voit, que vous voyez hier avec le baptême, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, Jésus se met dans la situation du pécheur, sans avoir commis de péché, et prend parce que le Jourdain, vous savez, ce n'est pas un fleuve très, très limpide, enfin, c'est assez bourbeux. Enfin, il s'enfonce dans cette bourbe et il remonte vers son père en disant, en gros, les mots du psaume 50. Voilà. C'est-à-dire, tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges, etc. Et donc, il présente à Dieu une humanité qui, malgré la difficulté, en quelque sorte, de ce retour, opère ce retour de façon spectaculaire et va pouvoir permettre à l'homme de revenir en grâce devant Dieu. Parce que tant que l'homme n'a pas repris son attitude filiale devant Dieu, même le pardon de Dieu, parce que le mot pardon, c'est un mot que nous utilisons beaucoup, mais qui n'est pas fréquent dans la Bible, en fait. C'est pas simplement Dieu dit bah, c'est pas grave, on n'en parle plus. C'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que l'homme fasse ce mouvement de retour vers Dieu. Et il en est devenu incapable du fait du péché lui-même. C'est là le piège dans lequel Satan essaie de l'enfermer. Et donc le Christ s'est mis dans les conséquences de ça et il a fait le retournement à notre place. Pour ça, moi, je dis souvent dans la confession, en réalité, le Christ, il est des deux côtés de la grille du confessionnal, en quelque sorte. C'est plutôt le Père, d'ailleurs, qui est d'un côté, et le Christ qui vient prendre la place du pénitent pour offrir enfin à Dieu un cœur contrit tel que Dieu le voudrait. Parce que notre cœur, quand nous sommes pécheurs, il a du mal à être contrit. Parce qu'on voit le péché surtout comme un manque à gagner pour nous, on n'est pas fier, on trouve que c'est... Mais en réalité, seul l'amour peut guérir le manque d'amour. Mais quand on est dans cet état-là, on n'arrive plus à aimer, justement. Bon, enfin, c'est de grandes réflexions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais m'excuse.
Bonjour.